voilà, en vous écoutant, on a bien compris que dire qu'un corps souffre, c'est dire que l'être, en toute sa personne, souffre. Vous l'avez dit en parlant de personne. Et donc, je vous parlerai de la souffrance. Souffrance du corps, évidemment, mais de la souffrance en général. En tant que médecin, je ne peux pas parler que de la souffrance du corps. On sait bien que quand le corps souffre, tout le reste souffre. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis vous nous avez introduit au mystère pascal, et c'est là que j'aimerais vous emmener ce soir pour essayer de donner un sens, si c'est possible, et si on peut l'accepter, à cette souffrance que tout être humain vit. Parce que je crois que la souffrance concerne tout le monde, elle est universelle, elle est omniprésente, elle n'est jamais désirée. Il ne faut pas qu'elle soit désirée. En tout cas, elle est là. Et donc, elle est une question, pour nous chrétiens particulièrement, et comme l'a dit le père Bruno, les prêtres n'aiment pas trop parler de la souffrance parce que c'est délicat. Elle est une question parce que tout est créé par Dieu, j'ai appris en théologie. Et donc, forcément, quand on souffre, on met ça sur le dos de Dieu. Vous connaissez tous cette expression, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? L'homme n'aime pas ne pas comprendre. Et donc il faut qu'il y ait un bouc émissaire, il faut qu'il y ait une origine, il faut qu'il trouve une explication. Et au-delà de ça, ça peut paraître logique de dire que Dieu y est pour quelque chose dans notre souffrance, puisque Dieu est à l'origine de tout. Non seulement on l'apprend et puis on le prie, par lui, avec lui et en lui, rien ne s'est fait sans lui. Et pourtant ce n'est pas Dieu qui a créé la souffrance, et pourtant elle est réelle, elle est là. Alors qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est ? Un peu philosophiquement, on dit que c'est du non-être, c'est-à-dire qu'elle n'est pas. On va répondre oui, mais pourtant, on la sent bien. Donc c'est la question du mal, d'où vient le mal ? La Bible ne nous donne pas beaucoup de réponses, on a quelques notions dans les trois premiers chapitres de la Genèse. Elle nous dit surtout ce que nous pouvons faire face à la souffrance, elle nous aide un petit peu à comprendre l'origine du mal. Enfin, on n'en ressort pas en étant apaisé quant à cette question de la maladie qui nous touche. La Bible nous dit surtout qu'on peut s'en servir de cette souffrance, que Dieu s'en sert, et on va en reparler. Vous connaissez bien le livre de Job, j'imagine, quand on parle de la souffrance. Je vous invite peut-être à la suite de cette soirée de le relire. Les 42 chapitres, ils se lisent assez facilement. C'est magnifique. Et quand on lit Job, on reste sur sa fin, puisqu'on attend impatiemment que ce pauvre Job ait une réponse aux raisons de sa souffrance, et on l'attend toujours. De manière à peu près unanime, on sait que la maladie, dans notre foi chrétienne, on dit que la maladie, la souffrance, la mort, sont à rapporter au péché originel. Que c'est par la volonté du premier homme, par le mauvais usage qu'il a fait de son libre arbitre, qu'il a commis ce premier péché, qu'il est donc sorti du paradis. Et donc c'est dans ce péché originel qu'il faut chercher la source de nos infirmités, de nos maladies, de souffrances, de la corruption, de la mort, bref, de tous les maux dont on peut être victime qui affectent notre nature humaine. Voilà, en séparant du bien, Adam et Ève ont définitivement ouvert la nature humaine à tous les maux. La nature humaine a cessé d'être soumise à l'homme. Voilà, maudite soit la terre à cause de toi, dit Dieu en Genèse 3, 17. Et c'est pas complètement absurde non plus, quand on regarde notre planète et notre humanité, de croire que, et de penser assez facilement que l'homme est quand même à l'origine de beaucoup de souffrances. Et même, j'en reparlerai quand on parle de la maladie, qui est le comble de la souffrance. Il n'y a aucune raison. La maladie qui n'a aucune raison d'être. Voilà, on peut se souvenir, j'apprenais moi quand j'étais en médecine, que si on utilisait le budget de l'armée américaine un an pour faire de la recherche sur le cancer, il n'y aurait plus de cancer. Voilà. Donc la question de se dire, mais la souffrance est quand même beaucoup à l'origine due à l'homme, elle est quand même pas si idiote que ça. Alors, la souffrance, quand on se pose la question, d'abord j'aimerais un petit peu avec vous, pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Qu'est-ce que c'est ? Alors j'aimerais faire deux distinctions. Et c'est intéressant en vous écoutant, justement, on parle de... Voilà, il y a la souffrance quand même qui est évidente. L'homme, il y a une responsabilité, vous nous parlez des proxénètes, etc. Et Dans la Bible, on nous dit clairement, le Seigneur nous dit, vous avez le choix de faire le bien ou de faire le mal. Dans le livre du Siracide, au chapitre 15, versets 11 à 17, que je vais vous lire. Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a dévoyé, car il ne fait pas ce qu'il a en horreur. Ne dis pas, c'est lui qui m'a égaré, car il n'a que faire du pécheur. Tout ce qui est abominable est détesté du Seigneur et ne peut être aimé de ceux qui le craignent. C'est lui qui, au commencement, a créé l'homme et l'a laissé à son libre arbitre. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Voilà, alors il y a la maladie, la souffrance dont l'homme est un peu responsable, ou beaucoup responsable, la méchanceté de l'homme, le cœur pervers de l'homme. Ça, c'est facile à comprendre. Et puis, il y a la souffrance totalement absurde, qui n'a aucune raison. Et je voulais quand même préciser ces choses-là, parce que la réflexion n'est pas tout à fait la même. La plus absurde, et je vais prendre le cas le plus absurde, vous nous en avez parlé, perdre un enfant, la souffrance d'un enfant. C'est quand même la question la plus douloureuse. Et puis, autre type de souffrance quand même, c'est la mort. Voilà. Qui est la mort du corps, qui est l'effet dernier de la souffrance. Donc la souffrance ne se limite pas à la maladie, elle est beaucoup plus ample, beaucoup plus complexe, et même beaucoup plus enracinée dans notre humanité. Et de la même manière, la souffrance ne se limite pas au corps, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'aimerais en deuxième point faire justement une petite distinction entre la souffrance du corps et plutôt faire le lien et la souffrance de l'être, de la personne entière, qui a un lien avec une autre distinction et qui peut être intéressante, c'est la douleur, le mot douleur et le mot souffrance. Alors notre dimension, notre être humain a une double dimension, triple, mais là pour la souffrance on va en dire double, physique évidemment et morale. Et la souffrance physique, le corps qui fait mal, la souffrance morale, qui a deux dimensions, la douleur de l'âme de nature spirituelle et la douleur de l'âme de nature psychique. Voilà. Et on constate dans toute l'écriture sainte qu'on peut appeler l'écriture sainte, hein, la Bible, c'est un grand livre sur la souffrance, hein. Il y a tout ce qu'il faut dedans, la mort d'un enfant, l'absence de descendance, l'incompréhension du bonheur des méchants, etc. etc. Enfin, mais dans l'Ancien Testament, la Bible traite toujours l'homme comme un ensemble psycho-physique, toujours. Et même, hein, c'est pour ça que c'est important de le dire, il associe souvent les souffrances morales à la douleur ressentie dans certaines parties de l'organisme. En Isaïe 38, 13. J'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Voilà. Donc les souffrances morales ont toujours aussi une composante physique ou somatique. On dit qu'on somatise ce qui se passe, et vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant de cette boule qu'on mettait au fond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de mot hébreu pour désigner la souffrance. Donc on appelle ça le mal. Et donc il y a dans l'Ancien Testament une identité qui est faite entre la souffrance et le mal, pour bien marquer l'opposition avec le bien. Et c'est dans le Nouveau Testament grec qu'il va y avoir des mots qui vont définir le fait de dire « je suis affecté » ou « j'éprouve une sensation, je souffre » et donc il va y avoir une séparation et non plus une identification du mal avec la souffrance. Et donc ça entraîne que si on ne parle pas uniquement de la souffrance du corps, mais qu'on parle de la souffrance de la personne entière, eh bien, après 10 ans de médecine, je vous le disais tout à l'heure, je ne peux pas ne parler que de la souffrance du corps. Je pense que la médecine a beaucoup évolué, et quand j'y étais, il y a encore 15 ans, donc c'est à peu près, on sentait qu'il y avait une évolution pour qu'on prenne en compte la personne dans sa globalité, dans toutes ses dimensions, physiques et psychiques. Qu'on ne réduise pas évidemment la personne à un organe malade. Vous connaissez tous les sketchs des inconnus ou autres, par lesquels on définit une personne par son appendicite ou par sa fracture du tibia. Et donc, puisqu'on parle de la souffrance globale, on parle aussi d'une distinction, mais d'un lien entre la douleur et la souffrance. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La souffrance est un peu plus complexe que la douleur. elle a ce caractère toujours subjectif, évidemment, donc elle est quand même difficile à définir. Et puis, elle est aussi difficile à définir parce que on sépare trop facilement tout ce qui concerne le psychologique, le psychique, et puis le somatique, le corps. Et donc, quelquefois même, quand on parle de douleur, on pourrait oublier de parler de souffrance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire qu'on peut ne parler que de douleur, et là, ça veut dire qu'on considère uniquement l'organe malade, sans parler de la souffrance, et donc de toute l'atteinte de la personne. Et vraiment, en médecine, c'est aujourd'hui un effort qui est réalisé. Je lisais encore des articles récemment, justement, pour me renseigner un petit peu, et de faire évoluer. On peut dire que la souffrance, le mot souffrance comprend plusieurs aspects, trois. Bon, après, c'est comme ça, un ordre d'idée. Une douleur physique, une détresse psychologique et un questionnement spirituel. Et c'est intéressant de voir que, en médecine, on parle aussi de spirituel. Vous voyez, comme quoi, tout est possible. Donc, douleur physique, une détresse psychologique et une détresse spirituelle, un questionnement spirituel. Pas forcément une détresse. Et là, je reviens à Job, qui va être un peu notre fil rouge. On se rend bien compte que le questionnement de Job et sa plus grande souffrance, elle est spirituelle. Elle est de ne pas comprendre pourquoi il souffre, plus que ses douleurs terribles. Et donc, c'est un état, en fait, la souffrance, qui est un état de détresse, quand l'intégrité de la personne est touchée, mise à mal. Donc la souffrance est multidimensionnelle, alors que la douleur sera plus facilement objectivable et plus précise par rapport à un organe ou une partie du corps. Donc Job est un bon exemple du fait que cette souffrance et que la douleur, ce n'est pas la même chose. Alors en troisième point, la souffrance, toujours en essayant de réfléchir à ce qu'elle est, elle est un questionnement. Qu'est-ce qui justifie la souffrance ? Et c'est la question que se pose Dostoïevski dans les frères Karamazov. Et c'est toujours à propos de la souffrance des enfants. Mais les enfants, comment justifier leur souffrance ? Dit Ivan. Comment Dieu peut-il permettre tout cela ? C'est un problème que je n'arrive pas à résoudre, dit-il. Et il poursuit. Dis-moi, si les hommes doivent souffrir pour préparer par leur souffrance l'harmonie universelle, pourquoi faut-il que souffrent aussi les enfants ? Pourquoi ont-ils été enfermés dans ce cycle ? Et pour quelles raisons doivent-ils eux aussi concourir à l'harmonie par leur douleur ? C'est absolument incompréhensible. Qu'ont-ils fait pour être entraînés dans cette tourmente ? Les enfants. Bon, les adultes, pas encore, mais les enfants, l'innocence de l'enfant. Alors pour Dostoïevski, dans la suite avec Karamazov, ça provoque deux attitudes, ce questionnement. Soit ça entraîne sur la voie de l'athéisme, on ne peut pas supposer l'existence de Dieu. Bon alors ça, nous les prêtres, c'est notre quotidien. Hein. C'est quand on sait des obsèques, quand on parle avec des gens, qu'on prépare au baptême ou à autre, ce n'est pas possible. Comment peut-on croire en un Dieu qui laisse souffrir ? Ou alors, dit-il, c'est la deuxième attitude, c'est au contraire la sublimation de cette souffrance, en estimant que les enfants se sacrifient pour sauver le monde. Alors cette question, ce questionnement sur la souffrance, évidemment, ne trouve pas de réponse de manière uniquement intellectuelle. Une théologienne protestante, dont j'ai oublié le nom, dit que il y a un véritable gouffre qui s'empare du malade lorsqu'il cherche à trouver les causes de la maladie ou de la mort possible. Et elle cite encore cet exemple. Voir son enfant souffrir sans pouvoir rien faire, vous en avez parlé tout à l'heure, elle dit, est une définition de l'enfer. Voilà. Donc c'est un questionnement. Et puis, en s'approchant de notre foi chrétienne, quatrième point, la souffrance est une invitation. Et alors c'est étonnant, j'ai lu dans le week-end du 7-8 janvier, dans La Croix, il y avait justement un article à propos du film qui va sortir sur le livre, entre autres, Les petits pas sur le sable mouillé, d'Anne Dauphine Julien. Et donc il y avait quelques questions qui étaient posées. Et la maman dit « La maladie est une invitation à retrouver l'esprit d'enfance ». continue. On se dispute parfois. On râle. Mais nous avons trouvé une boussole. Réorienter notre vie, car nous avons su ce qu'était la souffrance. Bien sûr, dit-elle, j'aurais préféré ne pas devoir passer par là. Mais voyez cette souffrance terrible. Hein, donc, un enfant, encore, puisque je reste justement dans l'extrême souffrance, est aussi une source, une invitation, dit-elle, une invitation, c'est elle qui le dit, et une boussole, et on retrouve le sens à sa vie. Et puis, quelques jours après, je me suis retrouvé dans une communauté religieuse pour faire quelques jours de retraite, les fraternités monastiques de Jérusalem, et le soir, je venais d'arriver, j'avais cette idée de réflexion sur la souffrance, puisque je savais qu'il fallait que je la retravaille, puisque je m'étais fait tout voler, dont le travail que j'avais fait pour ce soir. Donc il fallait que je recommence. C'est pour ça que j'étais dans le thème, au moins. Et donc, on a lu dans la règle de vie, qui s'appelle Jérusalem, livre de vie, fraternité monastique de Jérusalem, le paragraphe 181. La vraie joie naît de l'effort, de l'épreuve, de la souffrance, tout comme l'allégresse de Pâques a jailli de la croix. Tenez donc pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves, c'est Saint-Jacques. Dans les difficultés, les insultes, les contrariétés, les persécutions, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Il n'y a pas de joie profonde sans ascèse et sans participation active à la croix de Jésus. Voilà, j'arrivais là-bas et j'entends ce paragraphe dans la règle de vie. Alors évidemment, tout ça sont tirés de la parole de Dieu. Et le lendemain, autre paragraphe. Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Voyez, donc cette souffrance, c'est une invitation. C'est une invitation à la joie, une invitation à trouver du sens à sa vie. Alors qu'elle est aussi la souffrance, elle peut être vécue comme tout le contraire. Et donc, dans ce questionnement sur la souffrance, c'est Job, eh bien, toujours chez Job, on se rend compte, comme je disais, que la plus grande souffrance, c'est de ne pas avoir de sens à cette souffrance. Et pourquoi ? Pourquoi probablement ? C'est parce que, vous l'avez remarqué depuis que je parle, on se pose la plupart du temps la question du pourquoi. Pourquoi la souffrance ? Donc on cherche les origines, on cherche les causes. Et donc ce soir, je vais vous proposer, dans cette deuxième partie, de nous poser la question autrement, de nous poser la question du pourquoi, en deux mots. Pourquoi ? Et ça veut dire de trouver le sens de cette souffrance. Donc on change complètement de manière de voir les choses. Et c'est notre saint pape Jean-Paul II qui, le 28 février 1984, donc après l'attentat dont il avait victime, qui à une audience générale dit la chose suivante. J'ai pensé qu'il était opportun et plein de signification d'exhorter tous les chrétiens à méditer avec plus de profondeur et une conviction plus grande sur la valeur irremplaçable de la souffrance pour le salut du monde. Ce qui, pour la raison humaine, demeure une énigme insondable, devient par la foi, à la lumière du Christ mort et ressuscité, un message d'élévation et de salut. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai lu ça en première année de séminaire après 10 ans de médecine, dans l'introduction d'une lettre apostolique sur le sens chrétien de la souffrance, je l'ai balancée, je ne pouvais pas accepter. C'est une phrase qui est terrible. La valeur irremplaçable de la souffrance. Et puis après quelques années de prière et quelques années de sagesse en plus, j'ai goûté avec joie et j'espère vous le faire partager, ce que le pape nous dit là-dedans. Et en plus aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le relire, en ayant connu la fin qu'il a vécue et comprendre que tous ces mots écrits étaient vraiment prophétiques et que, comme le Christ, il a choisi de les vivre lui-même. Donc ça donne toute sa valeur. Et donc je vous conseillerais de lire cette lettre apostolique de Jean-Paul II de 1984 qui s'appelle « Le sens chrétien de la souffrance humaine ». Alors je vais vous inviter à vous poser la question du « pourquoi ». C'est-à-dire qu'au lieu de fixer notre regard sur le passé, au lieu de fixer notre regard sur quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, on va se poser la question et fixer notre regard, et vous l'avez dit tout à l'heure, sur le mystère pascal et sur la passion du Christ. Et on va voir que la vérité essentielle vient de ce Jésus qui, comme le dit Paul Claudel, vient s'étendre sur la croix. Il vient s'étendre sur la croix pour assumer toutes nos fautes et nos péchés. Et donc, vivre pour nous une souffrance qu'on appelle de substitution et faire perdre à la mort tout son pouvoir. On va comprendre aussi, j'espère, que la souffrance n'est pas inutile, qu'elle a un sens. Alors on oublie le fait de savoir mais d'où elle vient. Non, c'est pas grave, on oublie. Elle a un sens. Elle a une efficacité. Elle a une efficacité, et d'ailleurs, dans le langage un peu classique, on a tous entendu, après des drames, que cela serve. Voilà. Au moins que ça serve à quelque chose. Je pense qu'on l'a tous entendu. On va voir que l'acceptation de la souffrance et la conversion en résurrection nécessitent d'être consentis dans une première étape. Il faut consentir pour que, et là je vous ai parlé tout à l'heure de la douleur, de la souffrance, que la douleur puisse se transformer en souffrance et que la souffrance puisse se transformer en résurrection. Si il y a un déni de la souffrance, eh bien on ne peut pas la laisser se transformer en résurrection. On va voir aussi qu'il y a une analogie entre la manière de vivre la souffrance avec le Christ et la confession. Forcément, la souffrance est le fruit du péché. La confession, on répare la faute. Et dans la confession, on vient mettre de l'amour là où il y avait un manque d'amour. Et bien dans la souffrance, on va mettre de l'amour là où on peut perdre cet amour de la vie et cet amour des autres. Le curé d'Ars aussi, et on va le voir, nous dit qu'on peut souffrir pour les autres, comme le Christ a souffert pour nous. Le curé d'Ars disait « Je pleure ce que vous ne pleurez pas », en communion au même corps. Alors, le « pourquoi » en deux mots. Rien que cette question est douloureuse. Voilà, le « pourquoi » de la souffrance. C'est une souffrance humaine, et c'est la souffrance de Job. Sachant qu'il n'y a que l'homme qui sait qu'il souffre. Un animal souffre, douleur physique, mais il ne sait pas qu'il souffre. Alors, je vais me servir un peu de Job pour deux points. En lisant Job, on apprend que la souffrance a une valeur éducative. On apprend que Dieu permet, il ne désire pas, il permet cette souffrance dans le livre de Job, pour montrer la justice de Job. Alors que pour les amis de Job, vous connaissez ces quatre amis, enfin les trois principalement d'abord, cette souffrance est clairement une peine infligée par Dieu, ce qui est souvent le cas dans l'Ancien Testament. Dieu est un juge. Donc s'il est juste, eh bien il récompense celui qui fait le bien et puis il punit celui qui fait le mal. Dans un ordre moral objectif, une peine est requise quand il y a une transgression. Donc la souffrance, avec une logique humaine, apparaît comme un mal tout à fait justifié. C'est l'attitude des amis de Job. L'attitude de sa femme aussi. Le problème, et c'est là que ça coince, c'est que Job n'est pas coupable. Job est innocent. C'est injuste. Et Dieu va même le reconnaître à la fin. Dieu ne va pas être très doux avec Job. Moi, je suis très mal à l'aise. Quand on lit ça, on n'a pas envie d'être à sa place. Où est-ce que tu étais quand j'ai créé tout ça? Qu'est-ce que tu as fait, toi, quoi? Et à la fin, Dieu lui dit quand même, le reconnaît, que il n'est pas coupable. Et donc c'est la question fondamentale. Sa souffrance est celle d'un innocent. Et donc il doit être accepté comme un mystère pour lequel, comme j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence ne veut pas grand-chose. L'intelligence humaine ne veut pas pénétrer ce mystère. Et on apprend en plus que Dieu, au tout début, au chapitre 1er, versets 9 à 11, je ne vous les lis pas parce que sinon ça va faire un peu long, vous regarderez, que Dieu laisse cette souffrance, c'est Satan qui vient demander à Dieu pour éprouver Job. Donc la souffrance a un caractère d'épreuve. Et donc dans l'Ancien Testament, et c'est important, on sent que au fur et à mesure de la révélation de Dieu, de qui est Dieu et de qui est l'homme, l'homme comprend plutôt, comprend ce que Dieu lui dit, et que l'homme essaye de dépasser cette histoire qu'une souffrance est une punition du péché. Et donc on souligne la valeur éducative de ces souffrances. Et d'ailleurs, dans le Saint-Testament, quand Dieu inflige des souffrances au peuple élu, il ne va pas de main morte quelquefois, eh bien il y a toujours une invitation à la miséricorde après. Il y a toujours une invitation à la conversion. C'est, voilà. La souffrance a toujours après cet objectif pour Dieu de provoquer, de reconstruire le bien, de détruire le mal et de reconstruire le bien. Alors, donc, deuxième point, mais qui reprend celui-là, on sépare dans l'Ancien Testament, progressivement, le sens de la souffrance du simple ordre moral fondé sur la justice. La souffrance ne correspond pas simplement à une justice divine. C'est une étape importante de la révélation. Évidemment, on comprend, on perçoit que Job annonce la passion du Christ. Job est injuste, il est innocent et il souffre. Voilà. Et donc il faut chercher ailleurs, il ne faut pas chercher dans cette justice divine. Et ce ailleurs, c'est l'amour. C'est l'amour divin. Et c'est l'amour divin qui va se révéler dans l'amour immense et infini de Jésus. Et donc la réponse que Dieu donne à l'homme sur sa souffrance, c'est la réponse donnée par Jésus sur la croix. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut se tourner vers ce mystère pascal. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve, et j'espère que je vais réussir à vous faire toucher du doigt, c'est que la souffrance humaine, et c'est là le cœur de ce que la foi peut nous apporter, la souffrance humaine va être liée définitivement à l'amour. La souffrance humaine va être liée définitivement à l'amour, grâce à la passion du Christ, grâce à la croix. Or, l'amour est la source de tout. Elle donne sens à tout. Et donc, on peut entrer dans ce mystère de la souffrance si on se rend capable de comprendre l'immensité de l'amour divin. Alors, pour essayer d'aller comprendre comment cet amour de Dieu va être lié de manière définitive à cette souffrance, je vais essayer d'être clair. Premièrement, quelle est la fin de notre vie, le but ultime de notre vie ? C'est la vie éternelle. Voilà, donc l'objectif de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle. Nous avons perdu cette possibilité de vie éternelle par le péché originel. Bon, je fais rapide sur le péché originel, mais bon, on ne va pas. Et donc, l'objectif du salut de Dieu pour nous, c'est que nous puissions à nouveau vivre de cette vie éternelle, qui est de vivre en Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Voilà, c'est l'objectif. Donc, sauver pour Dieu, pour Jésus, ça signifie nous libérer du mal. C'est ça le salut. Or, dans ce mal, il y a la souffrance du corps, le fruit du péché, mais c'est une souffrance particulière, et il y a la souffrance de l'âme qui provoque cette perte de la possibilité d'avoir la vie éternelle. Dans cette souffrance du corps, il y a la mort qui est vraiment la souffrance au point le plus haut, et le péché qui est la souffrance de l'âme. Voilà. D'accord ? Donc si le Seigneur veut nous libérer du mal, il faut qu'il nous libère de la mort et qu'il nous libère du péché. Et donc on voit que le salut, notre salut, est intimement lié à la question de la souffrance. Et cette souffrance a un lien aussi intime avec une dimension rédemptrice de salut, c'est-à-dire de la vie éternelle. Donc c'est la souffrance pas uniquement historique et temporelle, c'est aussi la souffrance dans sa dimension définitive, qui est la perte de la vie éternelle. L'homme périt quand il perd la vie éternelle. Et donc, ne pas être sauvé, le contraire du salut, il faut prendre en compte ces deux dimensions de la souffrance, qui sont la dimension temporelle de la souffrance et la dimension définitive de la souffrance dans la perte de la vie éternelle. Si donc Dieu veut nous sauver du mal, ces racines du mal sont ancrées, enracinées dans le péché et dans la mort, qui sont des souffrances, qui sont elles-mêmes à la source de la perte de la vie éternelle. Et donc si le Fils veut nous libérer, sa mission, c'est de vaincre le péché et de vaincre la mort. Et donc Jésus va aller au plus profond de la souffrance du péché et de la souffrance de la mort, pour aller déraciner, qu'il ne reste plus rien qui ne puisse pas être touché par ce salut. Jésus va triompher du péché par son obéissance et il va triompher de la mort par sa résurrection. Donc si le Christ veut nous libérer de nos souffrances, il faut qu'il atteigne ce mal jusque dans ses racines, pas uniquement dans une ou l'autre dimension, si on veut en être libéré totalement. Il faut donc qu'il nous libère du mal et de nos souffrances vues comme définitives, qu'on appelle un gros mot eschatologique, c'est-à-dire dans notre dimension de ce pour quoi on est fait, la vie éternelle. Je vous rappelle Saint Jean, pour que l'homme ne se perde pas, mais à la vie éternelle. Et puis il faut aussi, parce qu'on vit quand même sur terre, que Jésus vienne nous libérer de ces racines du mal qui ont des effets dans notre vie temporelle et historique, sur terre, aujourd'hui. Parce que le mal reste lié au péché et à la mort, par le péché originel. Et c'est la croix, évidemment, la croix et la résurrection du Christ, qui vont venir faire que Jésus va aller jusqu'à la racine pour nous libérer de ce mal et de ce type de souffrance que sont la mort et le péché. Et on le voit dans tout l'évangile. C'est la croix et la résurrection du Christ qui vont éclairer avec une lumière nouvelle toute la dimension de cette souffrance dans nos vies. Cette lumière, c'est l'évangile, évidemment. Alors, ça c'était en premier point de nous rappeler que nous sommes faits pour la vie éternelle et que Jésus va donc, pour nous permettre la vie éternelle, devoir déraciner. Le deuxième point, c'est que Jésus sait qu'il doit accomplir cette mission par sa croix, donc par la souffrance lui-même. Alors comment il va aller, enfin comment, voilà, spirituellement, on va essayer de voir comment Jésus va, par sa croix, déraciner tout ça. On voit dans toute la vie publique de Jésus qu'il se fait proche du monde qui souffre. Tout le temps, Jésus prend sur lui cette souffrance. Il ne fait pas que vivre dans la fatigue, dans l'absence de maison, dans... Enfin, voilà, si on lit l'évangile. Donc il va de manière consciente au-devant de ce mal, non pas parce qu'il le désire, mais parce qu'il désire réaliser sa mission. C'est pour ça que quand Pierre va lui dire mais non Seigneur, tu ne vas pas souffrir, il ne faut pas, il va être violent avec lui. Passe derrière moi Satan, va-t-il dire à Pierre. Satan, le mal, puisque tu vas m'empêcher justement de libérer du mal. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà, notre pensée, souvent évidemment, dans la souffrance, c'est humainement tout à fait compréhensible d'en être libéré. Matthieu 16, 23, cette phrase de Jésus. Et donc Jésus va nous proposer une souffrance de substitution et de rédemption. De substitution, ça veut dire qu'il va, prendre sur lui toute notre souffrance et tous nos péchés. Et de rédemption, sa souffrance est salvatrice, elle nous sauve. Alors on comprend très bien à quel point Jésus va se charger de nos souffrances, de tous les hommes, de tous nos péchés, dans ces fameux passages d'Isaïe, qui sont les passages du serviteur souffrant, qu'on va méditer dans quelques semaines quand on va se lancer dans le carême. Jésus va se charger de tous nos péchés, de tous les hommes. Dans sa souffrance, voilà, les péchés vont être effacés, uniquement parce que lui, le Fils unique, a pu les prendre sur lui, a pu les assumer. Voilà. Je vais vous lire quand même ce passage d'Isaïe. je vous ai dit, ah non, 53, chapitre 53, versets 2 à 6. Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Donc le Christ sait qu'il doit accomplir cette mission par sa croix, par la souffrance. Et alors, troisième point, la plus complète des réponses, c'est à Gethsémani et au Golgotha. Ce Jésus porte en lui, il est lui-même, cette interrogation qu'on a sur la souffrance. Il l'est par excellence, puisque lui, le seul homme qui n'a pas péché, devrait être celui qui ne souffre pas. Or, il va être identifié au péché et à nos souffrances. Et c'est donc dans ce langage de la croix, comme dit saint Paul, qu'il va y avoir une synthèse de toute sa vie, de son enseignement, et de sa vie et de sa mission. Alors, à Gethsémani, Matthieu chapitre 26, verset 39. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et au verset 26, et au verset 42, de nouveau il s'éloigna et pria pour la deuxième fois, il disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Alors Gethsémani, par ces paroles, on a un peu la preuve de la vérité de l'amour, par la vérité de la souffrance. Jésus ne fait pas semblant. Cette vérité humaine de la souffrance, elle est, pour Jésus comme pour nous, la souffrance est subir un mal. Voilà. Subir un mal contre lequel on a tous peur, on frémit, comme le Christ a frémi, il a eu peur. Et donc, il y a une vérité de sa souffrance, et donc une vérité de l'amour. Et en même temps, Jésus a expérimenté une souffrance d'une profondeur et d'une intensité unique et incomparable, qu'aucun homme ne peut expérimenter. Pourquoi ? Parce qu'il est le Fils unique, il est Dieu. Et on comprend en lisant les prophètes, entre autres Isaïe, mais d'autres également, que tous nos péchés, chaque péché commis, le fait souffrir. Et le fait souffrir d'une manière qu'on ne peut pas percevoir. Le fait souffrir d'un abîme qui est creusé en lui-même, il perçoit cet abîme que l'on creuse à chaque fois qu'on commet un péché. Puisque c'est la rupture de la relation à Dieu, entre Dieu et l'homme. Et donc Jésus vit en lui-même cette souffrance de cet éloignement, de cet abîme qu'on creuse entre Dieu et nous à chaque fois qu'on commet un péché. Et donc ça fait souffrir d'une manière la plus expressive, la plus paroxystique. Donc c'est vraiment à Gethsémani que toute cette souffrance se révèle définitivement, disons, à Jésus. Et au Golgotha, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? De la même manière, ce n'est pas uniquement l'expression de l'abandon. Mais il y a cette union entre le Père et son Fils. Union parfaite. Union entre la nature humaine et la nature divine de Jésus. Qui fait que lui, sur qui toutes les fautes sont retombées, nous dit Isaïe, eh bien, il perçoit d'une manière particulière le poids horrible du péché. Il y a une telle profondeur divine de cette union entre Jésus et son Père, de cette union du Fils avec son Père, que la séparation qu'il vit à cause de ce péché qu'il a pris, qu'il n'a jamais commis, mais qu'il a pris, provoque en lui une souffrance qui est humainement inexprimable. La souffrance humaine atteint son sommet dans la passion du Christ. Et de la même manière, l'amour de Jésus atteint son sommet. Puisque l'amour de Jésus, qui accepte d'être identifié au péché, nous dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, alors qu'il n'a pas commis le péché. Cet amour de Jésus est à la mesure de la souffrance qu'il subit. Et donc la souffrance grâce à Jésus, à ce moment-là, va revêtir une dimension complètement nouvelle. La souffrance est liée à l'amour, définitivement, par la croix du Christ. Et donc, le point 4, c'est avec la passion du Christ, dans la foi, que notre souffrance humaine peut trouver du sens. Par ce geste de salut, de rédemption, par la souffrance, Jésus a élevé en même temps notre souffrance, la souffrance humaine, pour qu'il donne, pour eux, qu'elle ait elle aussi une dimension de rédemption. Et donc tout homme peut, dans sa souffrance, participer à la souffrance du Christ. En 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 11 et 14. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec nous. Voilà, pour conclure, il y en a un qui avait une telle foi qu'il a vraiment connu, enfin, touché vraiment de près l'amour même qu'a conduit Christ à la croix, c'est saint Paul. Et donc saint Paul nous parle de cette souffrance rédemptrice qu'il a vécu lui-même. Il nous dit que si nous communions aux souffrances du Christ, nous sommes donc appelés à prendre part à sa gloire. Donc la souffrance devient un appel. Et ça rejoint ce qu'on disait, elle est une invitation. Et on trouve dans notre foi toujours, c'est ce qui peut paraître un paradoxe, mais qui n'en est pas un, souffrance, gloire, croix et résurrection, dépouillement, élévation, faiblesse, puissance. On découvre avec saint Paul aussi et avec les évangélistes que communier aux souffrances du Christ est un appel à manifester la grandeur de l'homme. Dans Job, hein, on l'a vu, et puis elle nous pousse à vivre les vertus. Donc les épreuves, même si elles restent douloureuses, si la souffrance reste difficile, même très difficile, si on la laisse être pénétrée de cette puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la croix du Christ, ses faiblesses peuvent être élévation. Et la souffrance peut aider à devenir réceptif. C'est la faiblesse, hein, que Jésus nous propose. Saint Paul nous dira que voilà, plus on est faible, plus on est fort, plus on est faible, plus Dieu agit en nous. La souffrance nous devient un moyen de laisser la grâce de Dieu agir en nous. Jésus, Dieu nous montre qu'il veut agir vraiment particulièrement au moyen de cette souffrance pour manifester sa puissance. Et vraiment, pour terminer, c'est important, il y a cette notion de corps. Ça veut dire que vous connaissez cette phrase qui est assez énigmatique. Maintenant, c'est saint Paul, dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Il reste à souffrir. Ça veut dire que cet amour réparateur du Christ qui a opéré cette rédemption, évidemment, est toujours une rédemption, cette rédemption est toujours ouverte. Elle est ouverte à tout acte d'amour. Elle est ouverte à toute souffrance humaine, encore aujourd'hui, bien sûr. Et donc, dans la mesure où l'homme devient participant des souffrances du Christ, il complète à sa façon la souffrance par laquelle le Christ nous a sauvés. Pourquoi ? Parce qu'on le vit dans un corps, le corps qu'est l'Église, et ce corps ne cesse de se construire. Ce corps n'est pas fermé, il est ouvert. Or, c'est par ce corps que Jésus veut être uni à chaque homme, et particulièrement à ceux qui souffrent. Et donc, nous pouvons, comme dit saint Paul, compléter ce qui manque aux souffrances du Christ. Voilà, alors, en méditant ce mystère pascal, Gethsémani, le Golgotha, que je vous invite à méditer, particulièrement quand le carême va commencer, le livre de Job, eh bien, peut-être on perçoit un peu qu'avec le Christ, on peut surmonter ce sentiment d'inutilité, d'injustice, de la souffrance, sans rester, je dirais, obsédé peut-être par le pourquoi et l'origine, mais en tournant notre cœur vers le pourquoi, vers la finalité que cette souffrance peut avoir. Parce que on a peut-être découvert, grâce à Jésus, le sens salvifique de la souffrance. Si on désire être en union intime avec le Christ,